13 mars 1920. Il neige sur la porte de Brandebourg. Dans les rues, des cortèges d'ouvriers en colère croisent des milices improvisées. Un putsch mené par Wolfgang Kapp vient de renverser le gouvernement. Dans les bâtiments officiels, c'est le chaos. Les hommes se croisent, ignorant du camp qu'ils servent. La confusion est totale. Le gouvernement a fui, appelant à la grève générale. Au milieu du chaos, un homme reste impassible, assis sur un banc devant un kiosque du Tiergarten. Arrivé il y a quelques semaines, il n'est ni allemand ni militaire. Devant lui, une pile de journaux fraîchement imprimés. Il ne sent pas le froid. Il est au cœur du nouveau pouvoir et cela lui réchauffe les os. Il s'appelle Ignaz Trebitsch Lincoln. On lui a confié une mission. Contrôler la presse, censurer les nouvelles, orienter l'opinion. Il rature des titres, invente des consignes. Pour quelques jours, il joue à être l'œil de l'État. Ses mains tremblent légèrement, mais son sourire est assuré. Ministre de la propagande et de la censure, il est au centre d'un coup d'État porté par la mouvance White International. Dans quelques heures, lui, le petit juif hongrois, rencontrera même Adolf Hitler. Des gens hurlent dans les rues. Une bombe artisanale explose devant le siège du Parlement. Trebitsch regarde sa montre. Nous sommes le 13 mars 1920. Il est 14h34 et c'est l'heure H de mon histoire. Trebitsch, c'est son nom de naissance. Né en 1879 dans la petite ville hongroise de Pax, sur les bords du Danube. Fils d'un marchand de céréales, il grandit dans une maison modeste, entouré de trois frères, de prières et d'une mère aux petits soins. Le petit Ignace subjugue très vite par sa capacité à séduire et à convaincre son entourage. On décèle également chez lui une tendance naturelle aux mensonges et aux affabulations. On découvre par exemple dans sa mallette d'écolier des papiers selon lesquels il prétend s'appeler Abraham Schwartz. Mais quel enfant ne ment pas. Ça n'inquiète évidemment personne. Tous les enfants se racontent des histoires, inventent des personnages. Ignace est la coqueluche de l'école. Et lui s'ennuie. Il rêve d'horizons plus larges, de grandeur. Un soir, de retour de l'école, il dévisage sa mère en train de ranger la vaisselle, puis lui demande « Mais qu'est-ce qu'on fabrique ici? Qui a eu l'idée de s'enterrer dans ce trou ?» Quelques semaines plus tard, la famille déménage à Budapest, la capitale. Enfin. Enfin une ville à sa taille. Oui, peut-être. Pour le moment. Ignaz Trebitsch rencontre de nouveaux camarades à l'école. Il y a les nouveaux voisins aussi, des émigrés russes. Des Anglais. Ignaz parle sans arrêt. Il découvre un peu plus chaque jour le pouvoir vertigineux du mensonge et de la manipulation. Il comprend vite que son arme la plus puissante n'est ni la force, ni la richesse, mais la parole. Est-ce que c'est lui qui a un talent particulier pour influencer les gens? Ou est-ce que ce sont les autres qui éprouvent des scrupules à mentir, trahir ou manipuler? Il ne comprend pas bien ce qui les retient. Chacun doit tracer sa route, faire son chemin, trouver le moyen d'accéder à une vie grandiose. Et Ignace, lui, part de très loin, du fin fond de la Hongrie. On peut dire que c'est un certain handicap quand on rêve en grand. À 15 ans, il intègre l'Académie royale hongroise d'art dramatique. Il préfère l'improvisation au texte appris. Jouer un rôle, un nouveau rôle chaque jour, créer une vie entière en quelques secondes. Ses professeurs remarquent un talent particulier. Ignace jubile. Pourquoi s'arrêter quand le rideau tombe? Alors, il invente toujours plus de personnages, de patronymes, il change d'accent. Ses camarades ne savent jamais s'il porte un nouveau masque, s'il joue un nouveau personnage ou si c'est vraiment lui. Les filles sont troublées. Un soir, Catherine, sa nouvelle conquête, le regarde devant la cheminée et murmure « On sait jamais qui tu es. » Ignace sourit. Le théâtre, oui, mais pas seulement sur scène, pas seulement lors des cours ou quand ils se retrouvent la nuit pour répéter. Le théâtre partout, tout le temps. La vie est un théâtre. La vie doit être grandiose, alors jouons. Catherine le regarde, interloquée. Ignace a cette façon parfois un peu pompeuse de s'exprimer. Il est un peu trop grandiloquent pour un gamin de 16 ans, et c'est justement ce qui fascine et séduit celles et ceux qui le rencontrent. Soudain, on frappe à la porte, des coups secs. Ignace se fige. Les coups reprennent, plus longs, plus violents. Catherine a peur. Mais ils vont casser la porte, faut appeler la police. Elle veut se blottir contre Ignace, mais il se dirige lentement vers la fenêtre ouverte. Police ! Crient les hommes de l'autre côté de la porte. Catherine est terrorisée. C'est pas ton appartement ? Elle voit la porte qui s'apprête à céder sous les coups de la police, puis se retourne vers la fenêtre, mais Ignace a déjà disparu. En quelques mois à peine, la police apprend à bien connaître le jeune garçon. Il est arrêté et jeté au cachot pour de menus larcins, comme des vols à l'étalage ou l'occupation illégale d'appartements dont les propriétaires sont absents. Mais cette fois, il pense qu'on ne va pas le laisser s'en sortir à si bon compte. S'il l'attrape, ils vont le présenter à un juge. Ignace Trebić décide de fuir pour échapper à la prison. Budapest est déjà trop petite pour lui. À 18 ans, il débarque seul en Angleterre. La Grande-Bretagne représente pour lui une terre promise. Voici enfin un terrain de jeu à la hauteur de son ambition et de son appétit insatiable de pouvoir, d'argent et d'aventure. C'est le monde, le grand monde, enfin. Toute cette modernité quand même. Trebić ouvre des yeux immenses. Londres est pour lui un immense gâteau dans lequel il a hâte de croquer. Mais il lui faut une porte d'entrée pour pénétrer dans le cœur de la ville. Il choisit la religion. Il est né juif, mais ça n'a aucune importance pour lui. Il aurait pu tout aussi bien être péruvien, arabe, bouddhiste ou chinois. Trebić a 18 ans et une vie immense devant lui. En Angleterre, il se convertit et devient protestant. Il sait qu'il faut s'adapter. Les immigrés pauvres n'intéressent personne. Alors, s'il faut changer de religion comme certains changent de chemise, à qui est-ce que ça pose un problème ? Certainement pas à lui. Trebić est baptisé le jour de Noël 1899. Rien n'est jamais assez grandiose pour lui. Ignace Trebić se montre particulièrement dévot et est rapidement remarqué par les enquêteurs ecclésiastiques. Résultat, il est envoyé dans un séminaire luthérien à Breklum, en Allemagne. Il tâte le pouls, tente de comprendre ce qu'il peut retirer de l'expérience. Quand il se rend compte qu'on le destine à devenir pasteur, il prend peur. Le pastorat, c'est une voie sans issue dont il ne pourra s'échapper. Alors il prend son air contrit et va trouver l'évêque pour le convaincre qu'il faut continuer de baptiser de nouveaux adeptes. Pour ça, il pense qu'il fera l'affaire. Il a un don naturel pour embrigader les gens. Même s'il n'y en a pas besoin, avec une religion aussi pure et formidable que celle qui nous porte chaque jour, conclut-il. La rencontre dure 2 heures. Seul Ignace Trebić parle. Le surlendemain, il est mandaté en tant que missionnaire parmi les Juifs de Montréal. Trebić est ravi. Un nouveau terrain de jeu, un autre continent. Là, il change d'écurie. Les intérêts des presbytériens, puis des anglicans. Quelques mois plus tard, Ignace Trebić se présente au siège de l'Alliance anglicane de Montréal. Cela fait des mois qu'il trime comme un bœuf à essayer de convertir des types terrés dans des caves. L'esprit tellement dévoré par le Lévitique qu'il l'écoute à peine. Lui, l'ancien juif hongrois, qui leur débite ses plus belles salades. « Messieurs, je vous remercie de me recevoir, mais je vais aller droit au but. Mon salaire n'est pas suffisant. J'ai une famille, une épouse, un enfant bas âge. Je ne peux pas vivre décemment avec ce que vous me versez. Je sais qu'il s'agit d'une mission, un service rendu à Dieu et non pas une carrière lucrative. » Le pasteur vit de l'autel, dit l'écriture, mais la ferveur ne nourrit pas un enfant, messieurs. Et si vous croyez que mon travail peut être rémunéré au rabais, vous vous trompez. Je prêche 3 fois par semaine, je visite les malades, je prépare mes sermons. Ce que je vous demande n'est pas un luxe, c'est le nécessaire. Devant l'air stupéfait du responsable de l'Alliance qui n'a jamais dû gérer ce type de demande, qui donc vient se plaindre de son salaire quand il est au service de Dieu, Trebitsch s'agace. Si vous ne pouvez rien, je demande une audience sur le champ avec l'archevêque de Canterbury, oui, notre leader spirituel. Personne d'inférieur à lui ne mérite d'entendre ma requête. Il rencontrera bien l'archevêque, mais plus tard. Et pour le moment, son allocation n'augmente pas. Trebitsch décide alors de rentrer en Angleterre. C'est un cul-de-sac. La religion ne lui a rien rapporté. Pendant quelques jours, il marche sans cesse le long de la Tamise. Il cherche une nouvelle idée. Et puis ça lui vient. Soudain, clair et évident. Comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt ? C'est décidé. Il va s'introduire dans un autre monde qui le fascine, la politique. Là, il le sait, il y a de l'argent et puis aussi le pouvoir. Il a les yeux qui brillent, rien que d'y penser. Et ses yeux continuent de briller quand il s'agit de se présenter comme un gentleman respectable dans les soirées mondaines où il se faufile sans invitation. Il a fallu dérober un somptueux costume qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter, mais le vieux tailleur de Trafalgar Square n'a rien remarqué. Marié, père de famille, intellectuel, il fréquente des cercles philanthropiques, gagne des protecteurs, on le dit brillant, ambitieux. Charmeur aussi. Il change de nom et devient Ignatius Timothy Trebitsch Lincoln. ITTL. Plus british à son goût. Histoire de se fondre parfaitement dans le moule. Dans la foulée, il se fait naturaliser citoyen de Sa Majesté et devient britannique. Il rencontre Sibo Mwantui, un éminent membre du Parti libéral et devient son secrétaire particulier. Ensemble, ils voyagent à travers l'Europe pour des enquêtes sociales. C'est à cette époque que les deux rédigent un ouvrage sur la pauvreté qui influencera le Parti libéral britannique. Poverty, a study of town life. La pauvreté, Trebitsch Lincoln la connaît bien. Et il fait tout pour s'en débarrasser. Moins d'un an plus tard, il se présente aux élections de 1910 sous l'étiquette libérale. Il réussit l'impossible. En janvier 1910, il est élu député libéral de Darlington. Imaginez, ou plutôt, rappelez-vous, un fils de marchand hongrois, né dans ce qu'il appelle un trou à rats et dont il ne parle plus jamais, au milieu des vaches et des cochons, devant les eaux boueuses du Danube, qui s'assoit dans l'enceinte sacrée de Westminster, au cœur de l'Empire britannique. Ah ben ça y est, il y est. Le jour de son premier discours, la Chambre des communes est pleine. On attend avec curiosité ce nouveau député au nom étrange. Il se lève, traverse l'allée centrale, gravit le pupitre. Ses mains tremblent. Il tient des notes, mais n'en lit aucune. Il parle sans préparation. Sa voix hésite, puis s'affermit. Il évoque la loyauté envers ses électeurs, la justice sociale, les réformes nécessaires. Certains députés hochent la tête, d'autres ricanent. Il est étranger. Son accent est épais, mais il a l'assurance de celui qui croit tenir sa chance. Il croit avoir conquis sa place. Trebitsch Lincoln doit profiter des premières heures et des premières semaines, car ça ne va peut-être pas durer. Rapidement, on découvre ses dettes, ses emprunts frauduleux, ses mensonges. Les journaux s'emparent de l'affaire. Ses alliés le lâchent. En moins d'un an, sa carrière politique est brisée. Westminster lui ferme ses portes. Pour lui, commence alors une fuite qui ne s'arrêtera jamais. L'Angleterre ne veut plus de lui. Très bien. La pilule est amère, mais ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort. Dans les jours qui suivent, il embarque à destination de Bucarest. Il parade en ville avec ses grands airs de nabab. le voyant impossible de savoir qu'il est ruiné, endetté et devenu un paria. Non, il roule des mécaniques et s'acoquine rapidement des nouveaux riches qui ont fait fortune dans l'industrie naissante du pétrole. Sa méthode ? Bon, toujours la même. Escroquerie par abus de confiance. Il se mêle au gratin des personnalités locales, parle haut et fort, charme autant qu'il peut et glisse l'air de rien, sans s'en vanter plus que ça, qu'il est un ancien député britannique. Comme si c'était un détail anecdotique de son formidable parcours. Puis, il leur expose des réussites commerciales en Hongrie, à Londres et au Canada, qui l'ont rendu richissime. Ensuite, il se rapproche d'eux, un verre à la main, lentement. Il murmure maintenant. Mais il me semble bien avoir découvert un nouveau filon qui peut rapporter encore plus gros, dit-il. Les autres écoutent désormais. Il se rapproche. On n'a jamais vu de profit aussi faramineux. Trebitch Lincoln vient de les ensorceler. Quant à lui, il ouvre de grands yeux, tente de déceler le plus riche et le plus fragile d'entre eux. C'est avec lui qu'il veut faire affaire. Il se rapproche, gagne sa confiance, se dévoue corps et âme à lui. Il déplie lentement, avec la patience d'un prédateur, son plan d'action. Mais quand il tente de lui sauter à la gorge pour le dépouiller, il se rend compte que l'homme n'est pas si naïf. Ce n'est pas une proie facile. Désormais, il est démasqué. Il faut prendre la fuite. Encore. Après Bucarest, Trebitch Lincoln rentre à Londres. Il a l'impression qu'il pourra toujours s'y réinventer. Il y aura toujours de nouveaux terrains de jeu, au contraire de ces petites capitales de l'Est où l'air devient vite irrespirable pour lui après ses échecs. Trebitch Lincoln tourne en rond dans un petit appartement misérable du quartier de Whitechapel, que lui prête une vieille duchesse qu'il a rencontrée via l'archevêque de Canterbury. Mais il ne reste pas inactif bien longtemps. Une idée géniale vient de le foudroyer, là, alors qu'il fume à la fenêtre. Et attendez donc la suite. Vous n'allez pas être déçus. Le monde n'est fait que d'opportunités qui ne demandent qu'à être saisies. Trebitch Lincoln le sait mieux que personne. Oui, la guerre vient d'éclater. Nous sommes en 1914. Il se dit que le pays a bien besoin de forces vives. Pas question de se rendre dans les tranchées pour se battre comme un paysan. Espion. Ah, par contre ça, ça colle parfaitement à l'image qu'il a de lui-même. Trebitch Lincoln agrémente son CV de quelques exploits supplémentaires. Il peaufine son discours. Il fera un espion parfait, il en est persuadé. Il décide alors de proposer ses services aux renseignements britanniques. Les agents de recrutement britanniques le reçoivent dans une maison discrète de Vauxhall. L'entretien dure plusieurs heures. Trebitch Lincoln parle beaucoup, sans doute, un peu trop. Les deux gradés face à lui le dévisagent. Ils prennent des notes, puis ils se retirent pendant de trop longues minutes. La décision devrait être immédiate, s'énerve Ignace Trebitch tout seul dans le grand bureau. Engagez-moi, je suis votre homme. Les examinateurs reviennent. Il pose les mains sur le dossier face à eux. Non. Lincoln n'entend pas. Quoi ? Non. Le gouvernement britannique décline poliment à l'anglaise. No, sir. Thank you, sir. Il n'y a peut-être pas d'effusion, pas d'esclandre, pas de scandale qui éclate dans les bureaux du SIS, le Secret Intelligence Service. Mais Trebitch Lincoln est rancunier. Il n'accepte pas qu'on lui renie les talents qu'il vient de s'inventer. Vous ne voulez pas de moi ? Vous refusez les services d'un homme doté de mes compétences ? Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Trebitch Lincoln est foudrage. Aussitôt, il se rend aux Pays-Bas. Il parvient à se mettre en relation avec des responsables allemands. Ah ça, les Britons ne veulent pas de moi. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et l'homme a la rancune tenace. Alors en 1914, Trebitch Lincoln va vendre son talent d'espion à l'ennemi, positionné de l'autre côté des tranchées. Oui, oui, il veut se vendre aux Boches, moins de 2 jours après avoir proposé ses services aux Anglais. Trebitch Lincoln n'y voit aucun problème. Il pense que ce serait ridicule de gâcher un talent comme le sien. Il propose ses services à l'Abteilung, le service de renseignement militaire. Les Allemands hésitent, puis comprennent que le type devant eux a une telle rancœur envers les Britanniques qu'ils sauront toujours en tirer profit.